注定。
De l'évangile des disciples d'Emmaüs, le pape François souligne que Jésus répète pour les deux disciples d'Emmaüs le geste central de toute Eucharistie. Il prend le pain, le bénit, le rompt et le donne. Et de poser cette question, n'y a-t-il pas dans cette série de gestes toute l'histoire de Jésus ? Il n'y a-t-il pas, dans toute Eucharistie également, le signe de ce que doit être l'Église, de ce que nous devons être? Et il est vrai que, comme le souligne saint Augustin, d'ordinaire, la nourriture que nous mangeons devient notre force, notre chair et notre sang. Ce que je mange devient moi. Au contraire, quand je me nourris de Jésus, le pain vivant descendu du ciel, je deviens lui. Vous connaissez peut-être ce chant magnifique « Devenez ce que vous recevez », dont les paroles viennent de saint Augustin. En recevant le corps du Christ, nous devenons chacun et tous ensemble le corps du Christ et les membres de son corps. Nous devenons ce que nous recevons. J'aime bien cette réflexion d'un évêque qui dit que ce n'est pas une bonne habitude d'utiliser le mot « pratiquant » pour désigner ceux qui participent régulièrement à l'Eucharistie. Ce mot, dit-il, convient bien pour le football ou le vélo, mais il doit être corrigé pour évoquer la prière, les sacrements et toutes les pratiques chrétiennes. Il faut que ce participe présent devienne un participe passé. En réalité, nous ne sommes pas pratiquants, mais pratiqués. Dans l'Eucharistie, c'est Dieu qui nous pratique, nous transforme et nous transfigure. Par sa parole, Jésus est comme un boulanger qui pétrit sa pâte. C'est Jésus qui nous pratique, nous malaxe et nous transforme par sa parole et par ce pain vivant descendu du ciel. Nous nous remettons entre ses mains pour le laisser faire de nous un bon pain. Mais par l'Eucharistie, Jésus va encore plus loin. Il nous fait devenir ce qu'il est. L'histoire du pain est donc aussi notre histoire. Alors voyons de plus près l'histoire du pain de l'Eucharistie, puisque son histoire est appelée à être la nôtre. L'Eucharistie fait de nous un pain déposé. Dans la célébration de l'Eucharistie, le pain est en effet déposé sur une patène, la patène du latin patena, plat, dérivant lui-même du grec patani, équelle. C'est une petite assiette sur laquelle repose le pain qui va être consacré lors de la messe. Dans une de ses lettres pastorales, Mgr Paul Desfarges, archevêque d'Alger, faisant référence à Marie qui, à Noël, déposa Jésus dans une mangeoire, dit que notre Église est dans la mangeoire. Nous sommes l'Église de la mangeoire. L'Esprit et Marie nous déposent et nous disposent, faisant de nos vies des vies livrées par amour. La mangeoire évoque déjà la patène. L'Église, comme son Seigneur, est totalement à la disposition de ceux auxquels elle est envoyée, donnée. Dès la crèche, Jésus est abandonné, offert. L'abandon n'est en rien une passivité inerte. L'abandon est un oui actif et dynamique. Nos oui permettent à Dieu d'agir en nous, par nous et avec nous. Au moment où le pain déposé sur la patène et présenté à Dieu pour lui être offert, nous pouvons nous offrir par ce pain, avec ce pain et en ce pain, comme l'exprime la prière de sainte Thérèse Coudergue. Mon Dieu, je veux être tout à vous, daignez accepter mon offrande. L'Eucharistie fait de nous aussi un pain sanctifié, c'est-à-dire un pain sur lequel l'Esprit Saint est invoqué. Lors de l'Eucharistie, c'est sur ce pain présenté à Dieu pour lui être offert qu'est invoqué l'Esprit Saint, pour qu'il devienne le pain de la vie, non pas temporairement, mais éternellement. Et sur nous aussi, l'Esprit Saint est invoqué pour que nous devenions une éternelle offrande, c'est-à-dire une offrande qui n'est pas à temps partiel, une offrande qui n'est pas avec une date de péremption. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire. Enfin, l'Eucharistie fait aussi de nous un pain rompu. C'est ce pain devenu corps du Christ qui est rompu pour être donné. L'Eucharistie fait ainsi de notre Église, de chacune et chacun de nous, un signe de la présence livrée du Christ pour signifier le don de l'amour de Dieu qui veut rejoindre tous les hommes. L'Eucharistie fait de nous un pain rompu, elle fait du peuple de Dieu un peuple pour les autres de trois manières, nous dit Pierre Clavry. Premièrement, l'Eucharistie fait de nous un peuple de témoins, témoins de l'amour de Dieu qu'ils ont reçu et qu'ils communiquent autour d'eux, là où ils vivent. Annoncer la bonne nouvelle, c'est rendre palpable pour tous cette puissance de l'amour qui libère et fait grandir par une attention humble et chaleureuse à chacun, par une présence discrète et confiante qui fait exister ceux qu'elle accueille. Le bienheureux Christian de Chergé a eu cette heureuse formule: Nous connaissons la citation de l'évangile de Jean et le Verbe s'est fait chair. Eh bien, Christian de Chergé lui dit « Et le Verbe s'est fait frère ». L'Eucharistie fait également de nous un peuple de frères, des frères universels, car elle nous rend solidaires de toute l'humanité. Nous sommes appelés à concrétiser autour de nous ce que nous recevons dans le sacrement. Le pain partagé nous convertit en l'homme de partage. Et c'est ainsi que nous pouvons devenir force de transformation du monde. Nourris de ce pain, nous ne pouvons être rassasiés aussi longtemps que les hommes sont affamés, affamés de pain et affamés de dignité, de justice, d'amour, de tout ce qui fait qu'un homme est humain. L'Eucharistie nous engage à rompre le pain avec tout homme dans le besoin. N'oublions pas que l'Eucharistie est le repas pascal de la libération de l'Exode, de la libération de l'esclavage. Et Jésus nous libère par sa Pâque de l'esclavage du péché et de la mort. L'Eucharistie nous engage dans la libération de nos frères, une libération intérieure et une libération extérieure. Enfin, la réconciliation et l'amour qui nous sont proposés sont à communiquer aux hommes dans un engagement quotidien et concret pour que le règne de Dieu devienne la réalité. Pour nous encourager à faire fraternité, nous avons un autre bienheureux comme modèle, le bienheureux Charles de Foucault, que l'on a appelé le frère universel. Il désirait vivre de telle façon que toute personne puisse le considérer comme son frère. Voilà un beau programme pour chacun. Pendant la décennie noire, les moines de Tibérine commençaient à faire fraternité dans leur cœur et leurs prières. Les gens des groupes armés, ils les appelaient nos frères de la montagne. Ceux des forces militaires, de police ou de sécurité, ils les appelaient nos frères de la plaine. Et nous, comment nommons-nous dans nos prières, dans nos échanges, ceux qui nous ont fait du mal? Pour nous stimuler à faire fraternité, il est bon de nous rappeler que nous sommes tous de Dieu. Nous sommes tous fils et filles bien-aimés du même Père. Saint Paul dit que le Christ est l'aîné d'une multitude de frères. Romains chapitre 8, verset 29. Par son incarnation, il entre en communion avec tout homme. L'Eucharistie fait aussi de nous un peuple de veilleurs, qui apporte une espérance en distinguant les lumières de l'avenir et en les désignant aux découragés pour qu'ils reprennent espoir et aux puissants pour qu'ils les soutiennent. Enfin, l'Eucharistie fait de nous un pain donné pour la multitude. La communion au corps du Christ ne s'arrête pas à l'assemblée que nous formons. Si nous formons vraiment le corps du Christ, si nous sommes personnellement unis au Christ ressuscité, nous sommes engagés à donner notre vie pour la multitude. L'Eucharistie fait de nous un pain donné pour le monde. Et je vous invite maintenant, en conclusion de cet enseignement, à écouter une homélie que prononça Christian de Chergé le jeudi saint 1994.
Nous vivons un temps où la foi n'exclut pas le doute, le questionnement. Il y a aussi assez souvent dans des actes quelque chose qui nous déroute et nous heurte aujourd'hui. La dureté des témoins de la foi vis-à-vis de leurs juges, leur conscience d'être pure, cette certitude exprimée que leur persécuteur ira droit en enfer. Intégrisme déjà, ou du moins on serait tenté de le croire. Ici, À l'heure venue de son passage dans la foi vers le Père, Jésus purifie en effet, mais par l'amour. À qui n'est pas pur, il dit encore « ami ». Il aura fallu attendre le XXe siècle finissant pour voir l'Église reconnaître le titre de martyr à un témoignage moins de foi que de charité suprême. Maximilien Kolb, martyr de la charité. Pourtant, c'est écrit, et nous venons de l'entendre à nouveau. Ayant aimé les siens, il les aima tous, jusqu'à la fin, jusqu'à l'extrême, l'extrême de lui-même, l'extrême de l'autre, l'extrême de l'homme, de tout homme, même de cet homme-là qui tout à l'heure va sortir dans la nuit après avoir reçu la bouchée de pain, les pieds encore tout frais d'avoir été lavés. Quelques versets après notre récit, Jean rappelle le psaume 40. L'ami, l'ami sur qui je comptais et qui partageait mon pain, a levé le talon contre moi, ce talon qui vient tout juste être lavé. Le voici donc qui se lève. L'amour a baigné les pieds des futurs missionnaires et aussi, d'un même cœur, ces pieds qui maintenant vont faire le chemin à rebours, celui de la trahison, de la complicité dans le meurtre. Le témoignage de Jésus jusqu'à la mort, son martyr est martyr d'amour, de l'amour pour l'homme, pour tous les hommes, même pour les voleurs, même pour les assassins et les bourreaux, ceux qui agissent dans les ténèbres, prête à vous traiter en animal de boucherie ou à vous torturer à mort parce que l'un des vôtres est devenu l'un des leurs. Pourtant, il avait prévenu, « Si vous n'aimez que vos amis, que faites-vous là d'extraordinaire ? Même les païens en font autant. » Pour lui, amis et ennemis se reçoivent d'un même père. Vous êtes tous frères. C'est que le martyr d'amour inclut le pardon. C'est là le don parfait, celui que Dieu fait sans réserve. Si bien que laver les pieds, partager le pain, donner sa mort et pardonner, c'est tout un et c'est pour tous. Pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et c'est le lieu de la plus grande liberté parce que c'est là que le choix du Fils coïncide complètement avec le choix d'amour du Père. Alors oui, il peut le dire, « Ma vie nulle ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » Elle est donnée une fois pour toutes, à Judas comme à Pierre, aux deux larrons à ses côtés comme à Marie-Madeleine et Jean, au pied de la croix, comme à sa propre mère. C'est son dernier mot, sa suprême consigne, faire de l'amour de l'homme le test, le critère, la pierre de touche de l'amour de Dieu. Donner sa vie par amour de Dieu à l'avance, sans condition, c'est ce que nous avons fait, ou du moins, c'est ce que nous avons cru faire. Nous n'avions pas demandé alors ni pourquoi, ni comment. Nous nous en remettons à Dieu de l'emploi de ce don, de sa destination jour après jour jusqu'à l'ultime. Hélas, nous avons assez vécu pour savoir qu'il nous est impossible de tout faire par amour. Donc, de prétendre que notre vie soit un témoignage d'amour, un martyr de l'amour. « Le génie, c'est d'aimer », écrit Jean d'Ormesson. « Et le christianisme, c'est génial, mais moi, je ne le suis pas. » D'expérience, nous savons que les petits gestes coûtent souvent beaucoup, surtout quand il faut les répéter chaque jour. Laver les pieds de ses frères le jeudi saint passe, mais s'il fallait le faire quotidiennement et au tout venant. Nous avons donné notre cœur en gros à Dieu, et cela nous coûte fort qu'il nous le prenne au détail. Prendre un tablier comme Jésus, cela peut être aussi grave et solennel que le don de la vie, et vice-versa. Donner sa vie peut être aussi simple que de prendre un tablier. Redisons-le nous, quand les gestes ou les déplacements du quotidien d'amour deviennent lourds de cette menace qu'il faut aussi partager avec tous. D'expérience, nous savons qu'il est plus facile de donner à celui-ci qu'à celui-là. D'aimer tel frère, telle sœur, plutôt que tel autre, même en communauté. Pourtant, la conscience professionnelle du médecin, le serment qu'il a prêté, le conduisent à soigner tous les malades, même le diable, ajouterait frère Luc. Et notre serment professionnel, à nous, religieux, notre baptême déjà, ne nous lie-t-il pas à les aimer tous, même le diable, si Dieu nous le demandait? Qu'en faisons-nous? C'est ce que nous avons voulu dire en refusant de prendre parti. Non pour nous réfugier dans la neutralité qui lave les mains, elle est impossible, mais pour rester libre de les aimer tous, parce que c'est là notre choix, au nom de Jésus et avec sa grâce. Si j'ai donné ma vie à tous les Algériens, je l'ai donné aussi à l'émir. Il ne me la prendra pas, même s'il décide de m'infliger le même traitement qu'à nos amis croates. Pourtant, je souhaite vivement qu'il la respecte au nom de l'amour que Dieu a aussi inscrit dans sa vocation d'homme. Jésus ne pouvait souhaiter la trahison de Judas, l'appelant encore « ami ». Il s'adresse à l'amour enfoui. Il cherche son père dans cet homme. Je crois même qu'il l'a rejoint. D'expérience, nous savons que ce martyr de la charité n'est pas l'exclusivité des chrétiens. Ce témoignage, nous pouvons le recevoir de n'importe qui, comme un don de l'esprit. Derrière toutes les victimes que le drame algérien a déjà accumulé, qui peut savoir combien de martyrs se révèlent authentiques d'un amour simple et gratuit? On pense à cet homme qui, l'autre jour, a sauvé la vie d'un policier blessé près de Notre-Dame d'Afrique. Peu de jours après, il devait payer ce geste de sa propre vie. Plus haut dans le temps, je ne peux oublier Mohamed, qui un jour a protégé ma vie en exposant la sienne, et qui est mort, assassiné par ses frères, parce qu'il se refusait à leur livrer ses amis. Il ne voulait pas faire le choix entre les uns et les autres. Ubi caritas Deus ibi est. Nous voici ramenés au témoignage de Jésus à son martyr. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes tous mes amis. Ce témoignage, nous l'accueillons avec la conscience que l'esprit est prompt, mais la chair est faible. C'est bien pourquoi il nous laisse sa chair à manger, à assimiler, comme le pain de notre témoignage.